La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Ce matin, un faire-part de naissance venu de Chine, un faire-part qui bouleverse la communauté scientifique et bien au-delà.
Avec une nouvelle aussi inéluctable que redoutée pour notre humanité, la naissance des premiers bébés génétiquement modifiés. L'annonce a été faite via l'agence américaine Associated Press il y a à peine 3 heures et c'est le scientifique chinois He Jiankui de l'université de Shenzhen qui affirme avoir mené cette première mondiale.
Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy.
Le jeune chercheur nous annonce fièrement donc la naissance de deux charmantes petites jumelles chinoises, Lulu et Nana, nées ces dernières semaines en excellente santé pour la plus grande joie de leur maman Grace et de leur papa Mark. Mais au-delà du carnet rose, He Jiankui nous explique qu'au moment de la fécondation in vitro, ses équipes ont introduit dans les embryons une protéine de synthèse, une sorte de programme génétique qui est allé modifier l'ADN des deux bébés pour les rendre résistants au virus du sida. À lire le Washington Post qui s'interroge forcément sur cette révolution scientifique, on comprend que cette première, c'était le rêve interdit de tout généticien, une technologie dont on savait qu'on pouvait la maîtriser, mais un très puissant tabou éthique, strictement prohibé d'ailleurs par la loi américaine. C'est bien pour cela que la brèche scientifique a été ouverte en Chine et que dès son officialisation ce matin, elle est dénoncée comme une inconsciente expérimentation humaine par de nombreuses voix à travers le monde. Associated Press cite He Jiankui qui se défend d'avoir voulu mener une simple première médiatique, mais qui veut créer un exemple est laissé ensuite, dit-il, la société décider de ce qu'elle veut en faire. Il précise que 6 autres couples séropositifs ont accepté ces expérimentations et donc que Lulu et Nana ne seront sans doute pas les derniers bébés à l'ADN amélioré en laboratoire. Et pourtant, les questions sont légion sur la méthodologie et sur les risques pris. Les parents qui ont accepté ce programme baptisé vaccin anti-sida ont-ils eu vraiment conscience de ce dans quoi ils mettaient le doigt? Les preuves scientifiques apportées par l'équipe de Shenzhen sont passé à la loupe et laisse très sceptique pour le moment, il faut bien le dire, les autorités génétiques mondiales très mal à l'aise d'avoir été ainsi placées devant le fait accompli.
La politique du fait accompli, c'est aussi celle qu'a appliquée la Russie dans la mer d'Azov et cela a déclenché hier une véritable bataille navale avec l'Ukraine.
Pour rappel des précédents épisodes, on lira le dossier que consacrait récemment Radio Free Europe à cette poudrière en puissance de la mer d'Azov. Depuis 4 ans, nous rappelle Christopher Miller, la Russie a annexé illégalement la péninsule ukrainienne de Crimée en mer Noire et à son extrémité est, elle a bâti à la va-vite un pont sur le détroit de Kerch pour la relier, la Crimée avec la région russe de Krasnodar. En faisant cela, Moscou s'est approprié le contrôle des passages de bateaux dans ce détroit de Kerch, le seul point de passage entre mer Noire et mer d'Azov, censé être partagé en bonne intelligence entre Ukrainiens et Russes. Mais hier, ce que l'on craignait depuis des mois est devenu réalité. L'Ukraine a tenté de faire passer le détroit de Kerch à 3 navires militaires. Les Russes se sont interposés, ils ont bloqué le passage avec un cargo, puis ils ont tiré sur les bâtiments ukrainiens. Ils ont éperonné l'un d'eux et ont finalement saisi les 3 avec leurs équipages pour vous confirmer qu'on est vraiment dans un scénario de guerre navale. Voilà ce que ça donnait hier avec bordée de jurons russes censurés filmés depuis le commandement de la frégate russe qui a foncé sur un remorqueur ukrainien. Voilà le son de la collision entre les deux bateaux, un symbole d'un affrontement repoussé depuis des mois mais finalement devenu réalité. À Kiev, l'Ukrainskaya Pravda donne des nouvelles des marins faits prisonniers par les services spéciaux russes. 6 seraient blessés, 2 dans un état grave.
Et plus largement, la presse de Kiev s'inquiète de l'escalade très forte que connaît le conflit russo-ukrainien qui était jusque-là larvé de basse intensité dans l'est de l'Ukraine.
Oui, Ukrainskaya Pravda relate ce conseil de guerre tenu dans la nuit autour du président ukrainien Petro Poroshenko qui a annoncé le déploiement de toutes ses forces navales dans la zone du détroit de Kerch. Même si son armée, tout le monde le sait, ne peut pas rivaliser avec les forces russes, Kiev veut marquer le coup, ne pas se laisser chasser de la mer d'Azov en violation de tout droit international sans avoir au moins convoqué ce soir en urgence le Conseil de sécurité de l'ONU. Et le président ukrainien veut aussi instaurer la loi martiale dans son pays. C'est finalement cela qui semble inquiéter avant tout Ukrainskaya Pravda qui liste les conséquences que ça pourrait avoir sur les institutions démocratiques. Jamais on n'en était arrivé là en 27 ans d'indépendance ukrainienne, précise le journal. L'état de guerre officiellement décrété, ça veut dire que la réserve militaire va être mobilisée, même si Petro Poroshenko a exclu dans un premier temps la mobilisation de tous les hommes en âge de combattre. Sous la loi martiale, impossible de tenir des élections, ça laisse augurer d'un report du début de la campagne de la présidentielle qui doit se tenir en Ukraine en mars prochain. Oublié aussi, ajoute le journal Viesti, le droit de grève, le droit de manifester librement. Les militaires peuvent désormais interdire les partis et les ONG selon leur bon vouloir, obliger les citoyens à des travaux d'intérêt général ou encore confisquer leurs biens si nécessaire. Côté russe, enfin, le quotidien Viedomosti s'alarme de ce durcissement extrêmement fort du pouvoir à Kiev, soupçonné après avoir provoqué la confrontation navale d'hier, de dramatiser volontiers la situation pour arracher à la communauté internationale une condamnation plus franche de la Russie.
Merci beaucoup Camille Magnard.